Micro Méga, Patrick Chompré.
Micro-méga, c'est la suite. Nous revoilà avec tout à l'heure notre invitée multifacette, une scientifique spécialiste de physique nucléaire, physique des particules, devenue journaliste, Dominique Leglu, qui dirige la rédaction du mensuel Science et Avenir. Mais tout de suite, rendez-vous sur les îles Galapagos, sur les traces de Darwin, plus de 170 ans après ce cher Charles.
Micro-méga.
Dès que les fruits tombent, ils sont consommés par les iguanes. C'est pour ça que dans ce milieu, eh bien, on ne trouve que des adultes. Et le seul endroit dans lequel les graines de cactus peuvent germer, c'est à l'intérieur des touffes de cette petite plante à feuillage rouge. Et tout le reste, dès qu'une graine tombe dans un espace ouvert, elle est automatiquement mangée par les iguanes terrestres.
Caroline Lachowski, nous sommes avec Samuel Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire, directeur de la ferme aux crocodiles dans le sud de la France. Et puis Sébastien Steyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes rendu sur cet archipel unique pour observer la faune et la flore. Et Caroline, c'est cette expédition dont nous parlons.
Bah oui, une expédition dans l'espace-temps, on pourrait presque dire, puisque c'est ça la spécificité de cet archipel des Galapagos, ce monde perdu où Darwin a eu l'intuition de sa théorie de l'évolution. Située à 1000 km de l'équateur, les Galapagos sont en fait composés d'îles volcaniques qui sont restées isolées les unes des autres suffisamment longtemps pour permettre l'émergence d'une faune et d'une flore tout à fait unique. Alors de plus, comme elles sont d'un accès difficile, les Galapagos sont l'un des rares endroits au monde qui soit resté vierge ou presque de toute influence humaine. Voilà pourquoi, entre autres, Samuel Martin, vous avez organisé pour et avec vos collègues vétérinaires, paléontologues et botanistes, ce voyage exploratoire dans l'archipel des Galapagos pour faire découvrir à la fois aux spécialistes mais aussi au grand public cette faune et cette flore là extraordinaire peuplée, ça c'est pour la faune d'iguanes marins et de tortues géantes que vous affectionnez particulièrement, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, hein, je dirige un établissement zoologique, donc on a affaire au grand public en permanence et c'est vrai qu'on aime, quand on se balade, on aime partager un petit peu ses émotions et cette notion de découverte qu'on peut avoir quand on se balade à l'étranger. Et les Galapagos, c'est vrai que c'est un endroit extraordinaire.
Vous le décrivez, oui, quand on arrive, ça fait quoi? Puis c'est plein d'archipels, plein d'îles.
Alors oui, quand on arrive, on survole, on arrive en avion, il y a un aéroport, et c'est vrai qu'on survole un ensemble d'îles, donc il y a trois îles principales. Vous avez Santa Cruz, celle sur laquelle on arrive, San Cristobal, et l'île de Isabela, sur laquelle on a passé le plus de temps, et qui est la plus vierge. Alors tout à l'heure, vous disiez que c'est difficile d'accès, oui et non. Aujourd'hui, les autorités des Galapagos commencent à avoir de sérieux problèmes puisque d'année en année, il y a de plus en plus de tourisme. Mais il est très bien contenu, il est bien encadré. Et si aujourd'hui, cet archipel est encore vierge dans beaucoup d'endroits, c'est aussi la volonté politique du gouvernement équatorien qui fait qu'ils ont réservé un certain nombre d'îles en accès limité uniquement aux scientifiques. Et même les populations locales n'ont pas le droit d'y aller. Hein. Et vous avez certaines zones, certains ports qui sont d'accès limité, toujours encadré. Il a fallu toujours se promener accompagné d'un guide naturaliste. Alors les échanges étaient souvent enrichissants parce que c'est des gens qui ont une bonne connaissance de terrain et à d'autres contacts, bon, ils se sont vite rendus compte qu'on avait aussi un certain nombre de connaissances théoriques et donc ça donnait lieu à des échanges assez passionnants.
Sébastien, c'était hier le point de vue du paléontologue, si j'ose dire, vous êtes spécialiste des dinosaures et même avant, sur le terrain, au Galapagos, ça fait quoi? C'est comme une photo instantanée de ces mondes préhistoriques que vous étudiez
ou... Oui, un petit peu, c'est un voyage dans le temps, c'est une découverte d'une faune et d'une flore tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis parti là-bas, quand j'ai annoncé aux collègues paléontologues du Muséum de Paris que je partais là-bas, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a pas de fossiles, tout est volcanique. » Et je leur ai dit « Il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir bouger, ces fossiles. » Alors, on évite maintenant de parler de la notion de fossiles vivants, pour parler des tortues ou des iguanes, on préfère parler d'espèces panchroniques, c'est-à-dire qui traversent les âges, en fait, dont la morphologie évolue assez peu dans le temps.
Ah, c'est un terme qu'on va bien retenir, ça, panchronique.
Panchronique, oui, qui traverse en fait le temps. hein, plutôt que de parler d'espèces ou de fossiles vivants, puisque si on parle de fossiles vivants, à ce moment-là, tous les animaux qui sont autour de nous, des blattes aux bactéries, en passant par les autres mammifères, etc., ils sont tous des fossiles vivants quelque part, puisqu'ils sont apparus sur Terre avant l'homme. Donc on préfère parler d'espèces panchroniques. C'est pas pour faire non plus du politiquement correct, mais ça replace un petit peu l'homme dans la diversité de la nature actuelle et passée.
Et précisément cette tortue-là, parce que vous m'avez confié, Sébastien Steyer, juste avant l'émission, votre carnet de bord, carnet de voyage au Galapagos, cette tortue que vous avez dessinée au crayon, avec un peu de couleur aussi sur ce carnet, c'est une espèce, comment vous avez dit, panchronique?
C'est quelque part une espèce panchronique. Samuel peut en parler plus longuement que moi en tant que herpétologue, bien sûr. Moi, j'ai
tenez,
été
je la
vraiment,
montre, la tortue dessinée par Sébastien.
C'est super ressemblant. Oui.
Voilà, ce qui était intéressant, c'est pour moi, en toute modestie bien sûr, d'emboîter un petit peu les pas de Charles Darwin et d'essayer de voir déjà ce qu'il a vu, et puis d'essayer de mieux comprendre un petit peu comment il a eu ses soupçons au cours de son voyage, notamment donc au Galapagos, des soupçons sur le contexte créationniste en fait de l'époque. Darwin est parti, déjà il était très jeune, il avait 26 ans, et puis il est resté 5 semaines seulement. Et ces 5 semaines...
Ça l'a ébranlé complètement.
Pas tout à fait, il n'a pas eu l'illumination de l'évolution au Galapagos. Hein, avant Darwin, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu Lamarck, donc qui est le premier évolutionniste. Hein, on va quand même lancer un petit cocorico, puisque Lamarck était un naturaliste français, 1809. La publication de philosophie zoologique de Lamarck, c'est l'année de naissance de Darwin. Hein, donc là, on est en fait en 1835, donc Darwin a 26 ans, et il ne reste que 5 semaines dans l'archipel. Mais ces 5 semaines... Même si on ne parle pas d'illumination où il découvre l'évolution, ces 5 semaines vont être décisives parce que il va, par l'observation de la faune, notamment endémique, il va avoir ce que Patrick Thor, le spécialiste français de Darwin, philosophe...
Il était dans cette émission il n'y a pas longtemps.
Voilà ce que Patrick Thor appelle une constellation de soupçons par rapport au contexte créationniste et fixiste de l'époque.
Mais qui... par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne ce soupçon-là à Darwin? C'est de voir en face de lui ces animaux préhistoriques en train de bouger, en train de vivre?
Voilà, alors il était assez fasciné par les iguanes marins qu'il trouvait très laids. Et il a fait des expériences avec ces iguanes, qui étaient des individus tout à fait dociles. Hein. Il s'est dit, bon, ils sont marins, mais ils passent la plupart de leur temps sur les rochers, sur terre. C'est assez bizarre. Donc il en a pris un. Il l'a lancé à l'eau, et puis l'animal est revenu se poser tranquillement sur son rocher. Alors là, il a dit, tiens, c'est bizarre, il y a un trophisme terrestre de cet animal marin. Alors, il l'a pris, le même, il est parti en bateau, et il l'a jeté au large, le pauvre iguane. L'iguane est revenu, encore une fois, sur le sol. Et il s'est dit, mais si ces organismes, soi-disant marins, sont terrestres, enfin, préfèrent la terre, c'est que peut-être qu'ils proviennent d'un ancêtre terrestre. Et petit à petit, comme ça, il a eu des soupçons, hein, pour reprendre l'expression de Patrick.
D'autant plus qu'il venait d'Amérique du Sud, donc il avait longuement vu les iguanes verts, qui s'est aperçu qu'au Galapagos, il y avait deux espèces, deux grands groupes en tout cas, ou deux types d'iguanes, l'un noir qui était assez aquatique et l'autre plutôt jaune qui vivait essentiellement sur Terre. Aujourd'hui, on vient de redécouvrir, il n'y a pas longtemps, encore une autre espèce d'iguane marin, enfin terrestre, qui a plutôt une morphologie d'iguane marin, donc tout ça est assez compliqué. Mm-hmm. Mais c'est parti aussi de ça, de se dire, bah, finalement, il ressemble drôlement au cousin que j'ai rencontré sur le continent, et est-ce qu'il n'y a pas une origine commune? Enfin, s'ils ont des points communs, c'est que... Voilà. Alors aujourd'hui, on a retenu essentiellement l'utilisation des becs ou de la morphologie des becs de pinson, mais c'est clair qu'il a pu trouver son inspiration chez les reptiles.
D'où l'avantage d'être sur des îles, on va en reparler, et on va tout de suite d'ailleurs sur le terrain avec vous, et avec Frédéric Potz, qui était avec vous, qui est directeur du jardin botanique de la ville de Lyon.
Ici, au bord de la caldeira, on a une plante qui est extraordinaire. Au sein des plantes endémiques, il y a des espèces endémiques et il y a des genres endémiques. Et parmi les genres endémiques, eh bien, il y a celui-ci, qui appartient à la famille de la pâquerette, donc la famille des Astéracées, et qui a été dédié à Charles Darwin, qui s'appelle Darwiniotamnus. Donc ça fait à l'extrémité, là, la période de floraison est malheureusement terminée, ça fait des petites fleurs qui ressemblent tout à fait à des petites pâquerettes posées à l'extrémité. Et juste à côté, on trouve un autre végétal. Donc ce végétal-là est très intéressant pour les scientifiques, hein, puisque c'est vraiment une très grande valeur patrimoniale et scientifique. Alors qu'à juste à côté, on trouve une espèce très intéressante pour l'homme, mais qui malheureusement est pour les scientifiques une véritable peste végétale, une calamité, c'est la goyave, hein, qui est une plante qui s'est naturalisée dans l'archipel des Galapagos, qui est très intéressante pour les gens puisqu'ils la consomment, ils en font des confitures et des fruits, mais qui écologiquement eh bien, prend la place des plantes endémiques spécifiques de l'archipel des Galapagos.
Espèce endémique sur les îles, on l'entendait avec Frédéric Poultz. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des espèces, mais elles sont en danger. J'ai pas vu moi, votre carnet, Sébastien Stélier, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses très bien dedans. Merci.
Il y a quelques petites feuilles, hein,
d'ailleurs. Oui, oui, c'est comme un herbier. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Donc c'est une question que je pose à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant votre séjour qui a duré?
On est resté une quinzaine de jours dans l'archipel.
Un petit peu moins de temps que Darwin, quand même.
Ah oui, oui, oui. Malheureusement, bon, si on avait pu.
Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
Moi, j'ai de toute façon toujours un faible pour les iguanes marins.
Ils ont quelle taille d'abord?
Alors, c'est des animaux qui font, pour les plus gros mâles, 1m20. Quand on aime les reptiles, c'est des animaux qui ont une morphologie extraordinaire. Ils ont des gros dos griffus, trapus, ils sont noirs, jais. En période de reproduction, ils ont une livrée qui change légèrement de couleur pour les mâles, qui peut devenir vert émeraude sur le dos, voire rouge pour certains. C'est assez curieux. Et puis surtout, ils vivent en grande bande, en grand groupe, sur les rochers. Donc on voit beaucoup d'interactivité. Nous, on a eu la chance d'arriver, en plus, au moment de l'éclosion des jeunes. Donc on a vu des fratries vivre ensemble. Et les jeunes sont comme des jeunes animaux, souvent curieux, pas peureux du tout. Alors déjà que les adultes le sont pas beaucoup, les jeunes le sont encore moins. Donc c'est vraiment des moments magiques. Bon, après, bien évidemment, les tortues, mais bon, je dirais que c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble, c'est la mer, le vent, les... vous êtes en train d'observer des iguanes marins derrière les otaries qui passent, une raie qui vient respirer à la surface.
Enfin, oui, ça commence à faire beaucoup.
C'est,
quand même.
Ouais, voilà,
plus
c'est,
les oiseaux.
C'est, le vétérinaire est heureux là.
Ah oui, là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Sébastien Stélier.
Oui, c'est un petit peu le même choc naturaliste, si je puis dire. Également, on débarque à l'aéroport, un petit aéroport en fait, on passe un pédiluve, donc là on sent qu'on va être dans une ambiance différente, une atmosphère différente, tout est contrôlé, les douaniers ont des gants en plastique aux mains pour éviter, bon en plus il y avait la grippe A, qui, donc certaines normes de sécurité, et puis dès qu'on passe l'aéroport, là effectivement dans le ciel on est frappé par effectivement le pélican qui passe par là, dans l'eau, des poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Les piqueros, là les fous à pattes bleues, là qui pop pop pop. Ouais, et quand ils passent en grand banc et qu'ils commencent à plonger.
Les fous à pattes bleues, ces oiseaux.
C'est des fous, hein. Et ils ont, eux, les pattes bleues turquoises, quoi. Donc c'est absolument fabuleux.
Et est-ce qu'on a l'impression d'être dans un autre monde? L'atmosphère est quoi? Très humide, j'imagine?
Ouais, c'est assez humide. C'est équatorial. On est sur l'équateur. Alors, un des gros risques, c'est vrai, c'est de ne pas se couvrir la tête ou de rester trop longtemps au soleil parce qu'on est au bord de la mer. Donc il ne fait pas spécialement chaud non plus. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la mer, ne serait-ce que de 300-400 mètres, on peut vite avoir très très chaud.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était effectivement très bien protégé, c'est classé parc national par l'Équateur depuis 1958-59, je crois. Est-ce que c'est un exemple aussi finalement de protection de la biodiversité, puisqu'il y a quand même des touristes qui y vont, il y a des scientifiques, mais on a réussi à préserver ces îles et à les protéger aussi contre les espèces invasives d'autres îles.
Oui, alors quand on parlait de pédiluve, il n'y avait pas que l'histoire de la grippe A, hein. Il y a aussi le fait qu'ils sont très très vigilants aux espèces invasives, à l'introduction de graines. Bon, il faut voir que cet archipel a eu une histoire où il a été colonisé, il a servi de bagne pendant une certaine période, et puis il a eu des natifs qui ont vécu dessus. Les marins avaient abandonné des chèvres et puis ils venaient se resservir de ces chèvres régulièrement, donc ça faisait des réservoirs, c'était des techniques qui étaient communément utilisées, et aujourd'hui on a un certain nombre d'espèces invasives. Alors, vous avez des espèces de taille importante. On pense aux ânes, on pense aux ânes, aux chevaux sauvages et aux chèvres. Des espèces un peu moins grosses, les rats, les souris.
Qui créent une menace sur place.
Ah oui, qui créent une menace. Aujourd'hui, beaucoup de nids de tortues sont, ou d'iguanes sont mangés par les rats ou les souris. Vous avez également les chats, les chiens qui sont là, qui vivent avec les populations locales. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu gênant. Et puis, puis après vous avez tous les végétaux, hein. Les gens veulent planter des tomates, mais sauf que vous avez une tomate locale et qu'il peut y avoir contamination génétique par des pollinisations croisées ou autres.
Est-ce qu'on ne cherche pas l'impossible aussi à vouloir garder des îles et donc une faune, une flore telle qu'elle l'était avant? Est-ce que c'est une chose possible aujourd'hui? Ou alors, est-ce qu'il faut, si on veut le faire, est-ce qu'il faut carrément interdire l'accès aux hommes?
Je crois qu'en prenant certaines précautions, on peut tout à fait y arriver. Alors après, plus on augmente les flux, et les flux humains, plus on augmente les risques. Mais les Galapagos, comme beaucoup d'endroits où c'est protégé comme ça, font très attention à éduquer les gens. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de conservation participative, où on fait réfléchir les populations locales sur leurs besoins, et on leur montre aussi que tout ce qui est écotourisme peut être une source de revenus importante, hein. Je veux dire, c'est un séjour qui a coûté quand même pas mal d'argent, qu'on était heureux de payer, mais je veux dire, c'est vrai que c'est aussi une forme de sélection. Ouais. Les gens vivent plutôt pas mal sur ces îles, hein, globalement.
Alors vous avez parlé à l'instant des espèces invasives, et les végétaux aussi, ils sont venus coloniser en fait ces îles Galapagos. C'est assez Frédéric Potts, à nouveau, qui nous l'explique, c'est le point de vue du botaniste sur la stratégie des végétaux pour coloniser une île volcanique.
Les Galapagos sont à 1000 km de la côte équatorienne. Le moment où ces volcans émergent, il n'y a aucun végétal. Et en fait, au cours des millions et millions d'années, certains végétaux, à peu près 350, ont réussi à traverser ces 1000 km de mer pour coloniser naturellement l'archipel des Galapagos.
D'ailleurs, on voit déjà l'installation de fougères dans la cheminée elle-même, alors que ça sent un petit peu le soufre. Hein.
Effectivement, au sein des végétaux, les végétaux qui sont capables de franchir ces 1000 km, il y en a très peu. Donc soit ils le franchissent sous forme de spores, comme les mousses par exemple, ou les fougères, soit sous forme de graines, soit sous forme de fruits. Donc soit c'est fait via les courants marins, ou via au moment de tempête ou d'ouragan. Tout ça reste hypothétique. En tout cas, il est clair que ces végétaux ont réussi à franchir ces 1000 km de mer. De ce côté-là, on a des coulées de lave beaucoup plus anciennes. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que on est au second stade de ce qu'on appelle la dynamique de végétation. Les premières plantes sont arrivées, des fougères, des lichens. Et à partir de là, on commence à voir apparaître des petits arbustes, comme celle-ci, avec de fortes épines, c'est une ramenacée, une passiflore, hein, une fleur de la passion, comme celle-ci, qu'on appelle Passiflora fetida. Et puis des premiers arbres, comme cette burséracée qu'on a ici. Mais encore, hein, on le devine ici là-devant, la végétation n'a pas réussi encore à coloniser complètement le couvert. Première étape, les lichens uniquement. Deuxième étape, les premières plantes à fleurs, hein, ce qu'on appelle les plantes supérieures. Là, on est en fait à la troisième étape où les plantes commencent à s'insinuer dans les anfractuosités. Et puis ensuite, les plantes vont pousser de plus en plus jusqu'à couvrir l'ensemble de la surface.
Écoutez RFI Micro-Méga sur les traces de Charles Darwin sur les îles Galapagos avec Samuel Martin, vétérinaire, Sébastien Steyer, paléontologue. Et là, donc, on était avec Frédéric Potts qui nous expliquait comme ça donc comment les plantes étaient arrivées sur cette île volcanique. C'est assez magique. Est-ce que le tableau est aussi clair concernant les animaux ?
Oui, on peut imaginer les mêmes choses pour les animaux, hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour les iguanes qui sont arrivées, on peut imaginer que soit des œufs ont dérivé sur des troncs d'arbres,
ah oui,
soit des animaux soient arrivés accrochés sur un îlot flottant. Quand on voit les iguanes verts, ils sont capables de nager, ils se débrouillent très bien dans l'eau. Donc, qu'ils aient été emportés comme ça sur un radeau flottant, c'est pas idiot. Les adultes sont essentiellement herbivores, et donc on peut imaginer qu'un groupe d'iguanes débarquant sur cette île comme ça où il y a rien, se disent, bon, bah, la seule solution qui reste, c'est d'essayer d'aller brouter des algues qu'il y a à proximité. Et de ce fait, et développer un comportement qui fasse qu'aujourd'hui on les taxe d'iguanes marins, alors qu'ils sont essentiellement terrestres à la base.
Et du donc, coup, on comprend mieux pourquoi Darwin a peut-être pu imaginer ou élaborer le début de sa théorie d'évolution-là, parce que c'est ça, l'évolution.
Tout à fait. Lui, il s'est beaucoup basé sur la morphologie, mais parce que son voyage a été très rapide, donc il a piqué des instants, des tranches de vie. Quand on a un peu plus de recul, qu'on en sait un peu plus sur l'écologie, le mode de vie, l'alimentation des animaux, on peut aussi se dire que tous ces aspects-là sont aussi évolutifs.
On entend des petits sons d'animaux tout à l'heure. Ça fait quoi comme bruit un iguane? Parce que moi, j'ai reconnu les chèvres, j'ai reconnu peut-être les crapauds, je sais pas, non?
Non. Alors, il y avait les otaries, on a entendu les oiseaux. Oui. Effectivement. Alors, les iguanes, ça fait pas vraiment de bruit, si ce n'est que, de façon assez récurrente, ils excrètent le sel qu'ils ont en trop et ils le font en soufflant par les narines. Donc, ils font... Et on voit des petits jets de sel comme ça, c'est assez amusant.
Vous avez ramené des iguanes pour la ferme au crocodile?
Non, il est bien entendu hors de question de sortir quoi que ce soit du pays cette façon-là. On s'est rapproché des autorités des Galapagos pour essayer de voir ce qu'il était envisageable comme collaboration, notamment sur les questions de tortues des Galapagos, puisqu'on a un groupe de 6 tortues des Galapagos à la ferme au crocodile. Alors je précise que celles-ci sont nées en Europe, aux eaux de Zurich, et elles nous ont été confiées il y a quelques années de cela. Elles étaient de petite taille, et donc on a attendu, enfin il s'est avéré que c'est cette année qu'on a décidé de les présenter au public, et c'est en échangeant avec Sébastien qui m'a dit, mais tu devrais faire corréler ça avec la célébration du bicentenaire de la naissance de Darwin. Donc voilà. Et puis alors moi, comme je voulais aller voir comment ces animaux vivent dans la nature, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours important de montrer au public qu'on se soucie d'aller prendre des informations sur place, qu'on crée des liens, on est aussi des institutions qui servent à créer des liens, et qu'on n'est pas uniquement des montreurs d'ours. Et bien on a monté, en compagnie de Jean-Sébastien et Frédéric Pott, cette expédition, et donc c'est vrai que c'était assez intéressant.
Vous avez aussi un partenariat avec la station Darwin au Galapagos, c'est-à-dire que du coup, il y a un vrai lien entre la ferme au crocodile et puis...
On est en train d'initier ça, et effectivement, alors moi ce que je souhaiterais, c'est qu'ils veulent ouvrir un troisième centre sur l'île de San Cristobal, un troisième centre d'élevage de tortues. Donc je voulais, via notre association SOS Crocodile, participer au financement de la mise en place de ce nouveau centre d'élevage, d'une part, et d'autre part, je voulais un petit peu impliquer notre public en leur offrant la possibilité de faire des parrainages pour les tortues.
C'est-à-dire qu'on pourrait parrainer une tortue des Galapagos.
Que les gens pourraient parrainer des tortues des Galapagos. Alors, comme bien entendu, il faut bien voir que les autorités là-bas, leur principal souci ou leur quotidien est fait de la gestion de ces flux de touristes, de la protection. Donc, les choses prennent du temps un petit peu à se mettre en place. Mais voilà, il faut se tenir au courant via notre site internet, www.lafermeaucrocodile.com, et puis vous verrez les choses au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a un autre voyage comme ça? Dans quel coin du monde ça pourrait être aussi extraordinaire qu'aux îles Galapagos?
On échange beaucoup avec Sébastien sur ces questions-là. Je pense qu'on reconduira l'idée de voyage pluridisciplinaire avec des gens, parce que...
Donc botaniste, vétérinaire,
voilà,
biologiste...
Très enrichissant. On a ramené donc des images, on en a fait des images vidéo, on en a fait un DVD, on a fait de la photo aussi. Donc cette exposition est actuellement visible à la ferme au crocodile. Elle le sera à l'automne au parc de la Tête d'Or, à Lyon. Peut-être que le muséum l'acceptera. Enfin,
à Paris.
C'est vrai qu'à la fois, personnellement, je veux dire, sur un plan intellectuel, c'est très enrichissant. Et puis à la fois, je pense, en termes de synergie entre différents lieux, types d'accueil, de recherche, qui ont des approches peut-être un petit peu différentes, entre un parc privé et une structure comme le muséum, c'est aussi intéressant. Alors après, bon, on peut parler du Japon, de Bordeaux.
Vous voulez aller où, Sébastien Stenier?
Eh bien, au Japon.
Le paléontologue, vous allez où?
Au Japon, il y a actuellement, encore aujourd'hui, des salamandres géantes d'1,50 m, 1,80 m de long, et je pense que peut-être une des prochaines expéditions multidisciplinaires organisées par l'association SOS Crocodile et la ferme au crocodile également pourrait s'orienter vers ce coin-là de la planète pour des raisons de biologie de la conservation, de relations homme-nature, comme ce que vient de décrire Samuel Martin, mais également pour des réflexions évolutives, car ces salamandres géantes correspondent, en ce qui concerne leur morphologie externe, au premier tétrapode terrestre, c'est-à-dire au premier vertébré à pattes qui est venu un peu plus tard s'installer sur la terre ferme, dont nous dérivons tous en tant que tétrapodes, c'est-à-dire tous les amphibiens.
Nos ancêtres.
Voilà, tous les amphibiens, les reptiles.
On a du mal à s'imaginer quand on les voit,
il faut avoir de l'imagination, mais justement, concrètement, et ça sera peut-être notre dernière question, Sébastien Steyer, qu'est-ce que vous vous retenez de ces voyages et surtout comment ça peut influencer vos travaux une fois que vous revenez après? Parce que Darwin, finalement, il a été sur Galapagos, mais après, il a travaillé pendant beaucoup d'années pour sa théorie.
Oui, il a mis d'ailleurs 20 ans pour publier De l'origine des espèces, 20 ans de réflexion et de synthèse, de collecte tout autour du monde. Ce que je retiens de ces voyages assez exceptionnels, bien sûr, c'est que la nature actuelle nous permet de comparer, de connaître un peu plus également la nature passée. Les espèces que j'étudie, qui sont mon sujet de prédilection, les fameux stégocéphales, ont 250 millions d'années. Mmh. Ce sont des espèces antédinosauriennes qui ont disparu donc il y a environ 200 millions d'années. Et les espèces actuelles, notamment les reptiles ou certains amphibiens, peuvent m'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé.
Merci beaucoup. Caroline, on annonce quelque chose?
Ah oui, et ben le livre de Jean-Sébastien Steyer qui est sorti il y a quelque temps aux éditions Bellin, La Terre avant les dinosaures, avec des superbes illustrations.
Très beau,
Et puis donc exposition à la ferme au crocodile à Pierre Latte, un DVD édité par la ferme au crocodile sur cette expédition aux Galapagos. Samuel Martin, Sébastien Steyer, merci. Et puis
merci
après le Japon,
merci
les salamandres géantes, vous nous en ramènerez un petit carnet comme ça de croquis.
Si vous avez des questions, des remarques sur tout cela, bien sûr, à travers le site www.rfi.fr et puis sur Facebook, page Micro-Méga, retrouvez-nous, bien entendu. Et puis, là, on va se reposer quelques minutes, rentrer en feu cryotechnique. On se retrouve juste après le journal pour l'invité multifacette. À tout de suite.